Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. Si vous nous retrouvez pour ce rendez-vous dans Quartier Libre avec Bruno Lambert, que l'on connaît bien sur notre antenne, mais peut-être que vous ne le connaissez pas encore. Donc on va faire connaissance et puis il nous parlera de la sortie de deux livres. Bonjour Bruno.
Bonjour Odile.
Et bienvenue donc pour cette émission Une heure en compagnie de Bruno Lambert. Bruno Lambert, voyageur de l'extrême, homme d'aventure, naturaliste et guide d'expédition. Bruno Lambert, né en 1963, vous explorez la planète et les peuples en quête de liberté, d'action et de rencontre. Et dès votre retour du pôle en 1995, vous fondez les Marcheurs de la Terre, un programme de découverte et de sensibilisation environnementale. Dès lors, les reportages et les expéditions se succèdent dans les contrées les plus sauvages et les plus reculées du globe, Arctique, Himalaya, Amazonie, Bornéo, Atlas et Sahara, Patagonie, Terre de Feu, mais au-delà de l'exploit sportif et de l'amour de la nature, humanisme et partage sont les moteurs de votre passion. Bruno Lambert, merci d'être venu encore jusqu'à notre antenne pour nous présenter, on va parler bien sûr de la sortie de deux livres.
Eh ben, merci à vous de me recevoir une fois de plus. Alors je voudrais simplement compléter la petite biographie. Là vous m'avez présenté en tant qu'explorateur aventurier, à savoir quand même pour les gens qui nous connaissent sur Digne, que je suis également accompagnateur en montagne, guide naturaliste, et que je travaille tout autant donc sur les massifs alpins, dans les calanques et sur le littoral de chez nous qu'à l'étranger, voilà, avec la même passion.
Voilà, donc vous êtes vraiment un homme de terrain aussi et d'écriture.
On essaye.
Voilà, c'est donc vous allez nous présenter deux livres. Oui, on va commencer par le premier, bien sûr, Flore des Calanques, que vous avez donc coécrit avec Anne-Mérie.
Anne-Mérie, donc, qui est guide botaniste, qui est déjà auteur de pas mal de livres sur l'étymologie, l'histoire des plantes, les plantes culinaires, tout ça. Donc, c'est vrai que là, c'était la convergence, en fait, de deux passions sur un terrain qui est les Calanques, hein, que tout le monde connaît. Donc les Calanques, c'est provençal, s'étendent de Marseille à La Ciotat maintenant, avec les nouvelles frontières du parc. Anne, en tant que botaniste et auteur, et moi, en tant qu'accompagnateur des Calanques depuis maintenant 1983. Donc on a associé nos compétences pour essayer de faire un recensement assez précis des plantes que l'on peut rencontrer au premier balayage visuel. Alors ça fait quand même pas mal de plantes. Hein. Dans ce livre, vous avez 250 plantes répertoriées.
Et on parle d'environ 1000 espèces de plantes recensées dans le périmètre du parc national.
Voilà. Alors le parc national, le décret du parc a été arrêté en, je crois, avril 2012. Le parc national s'étend des îles du Frioul, donc au large de Marseille, à l'île Verte, au large de La Ciotat. Donc initialement, quand on parlait des Calanques, on parlait du bloc calcaire qu'il y a entre le Cap Croisette et Cassis. Là, maintenant, on peut rajouter effectivement toute la région du Cap Canaille et des falaises souveraines que doivent connaître les gens donc, de notre région. Quoi. Alors, c'est vrai qu'il y a une partie qui est calcaire, il y a une partie de flore également, de maquis. Et jusque dans les années 90, on estimait à peu près à 900 espèces, je dirais, le nombre de plantes rencontrées dans les calanques. En poussant notre recensement un petit peu plus loin, on s'est rendu compte que sur ces 900-là, on en a trouvé encore 100 autres. Donc, à vue de nez, on peut vraiment aujourd'hui estimer qu'il y a 1000 espèces de plantes dans les calanques. À savoir que dans ce livre, comme je le disais tout à l'heure, il y en a 250 de recensés. Alors, déjà, arriver à reconnaître 250 plantes dans un massif comme ça, c'est pas facile, quoi.
Alors, d'où vous est venue l'envie de faire ce livre? Il n'y avait pas de livre sur les fleurs des calanques?
Alors, c'est toujours pareil, hein. Vous allez dire que je me répète, mais ça encore, ça part d'un rêve d'enfant. Moi, j'ai grandi dans les Calanques. J'ai grandi, mais vraiment dans les Calanques. Dès l'âge de 9 ans, je me suis orienté sur les Calanques. J'en avais certainement parlé dans une autre émission. En grandissant, j'ai fait l'école buissonnière et j'allais dans les Calanques. Et adolescent, je me disais, quand je serai plus grand, je serai guide des Calanques. Voilà. Donc en 83, j'ai passé mon diplôme d'état d'accompagnateur. Et dès cette période-là, j'ai commencé à encadrer. Donc ça fait maintenant plus de 30 ans donc, d'encadrement professionnel dans les Calanques. Et je me suis passionné pour la flore des Calanques, beaucoup plus que pour la flore alpine. Alors peut-être pour les odeurs, peut-être parce qu'elles poussent dans un endroit aride, parce que les endroits arides me passionnent depuis toujours, peut-être parce qu'elles sont en balcon sur la Grande Bleue, j'en sais rien. Toujours est-il que j'ai toujours été fasciné par les plantes odorantes, les plantes ligneuses qu'on retrouve dans ce massif. Alors c'est vrai que lorsque j'ai commencé ce travail en tant qu'accompagnateur il y a très longtemps, il y avait très 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 peu de documentation, Internet n'existait pas, et genre, normalement on tournait avec une vingtaine ou une trentaine de plantes en catalogue que tout le monde connaît, le thym, le romarin, etc. Dans les années 90, je crois que c'était en 95 ou en 97, deux botanistes se sont attelés à un gros travail donc de recensement pour faire un petit fascicule qui lui recense quasiment les 900 espèces existantes. Le problème étant, c'est que ce livre-là n'est plus réimprimé. Et il était relativement difficile à consulter et s'adressait surtout à des spécialistes. L'objectif, c'était de faire une flore avec donc pas mal de photos. Vous voyez, le livre, il y a pratiquement 650 photos, 60 illustrations.
Il est lourd, hein.
C'est un livre assez lourd. Alors là, c'était, il a fallu trouver un compromis assez difficile avec l'éditeur et l'utilité du livre. Alors c'est vrai que ce livre-là est censé rentrer dans un sac à dos, mais à un moment donné, on peut pas tout comprimer, quoi. C'est pas possible. Déjà, rien qu'au niveau des photos, vous avez à peu près 3 photos par page, voire 4. Moi, il me faut des lunettes pour commencer à y voir clair, quoi. Donc, il faut savoir, alors ça fait sourire, mais il faut savoir que les gens qui sont très intéressés par la botanique sont souvent des personnes âgées qui portent des lunettes. Il faut vraiment en tenir compte. Et tous les petits guides naturalistes que l'on voit, les petits guides de poche, sont écrits en tout petit. Mmh. Et moi, mes stagiaires s'en sont plein souvent, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut à la limite faire un petit peu plus de poids, écrire un petit peu plus gros, quoi. Alors, ce livre-là, on a commencé à balayer le massif sur 3 années, alors exclusivement dédiées à la reconnaissance des plantes. Ces plantes étaient recensées, étaient notées spot par spot. On a recueilli près de 10 000 photos pour en sélectionner 650. Au départ, le premier jet devait avoir entre 500 et 600 espèces, et il a fallu qu'on sélectionne ces espèces-là. Alors, c'est pas des espèces exclusivement provençales, hein, vous avez des espèces qui remontent un petit peu partout en France. À savoir que la plupart des espèces qualifiées d'espèces méditerranéennes se retrouvent jusque dans notre département, c'est-à-dire que les plateaux arides du Verdon, des gorges du Verdon, du Luberon, ont une flore relativement proche de celle des Calanques, également les gorges de Trévence, donc on est vraiment sur du 0,4. Après, les massifs limitrophes, je dirais, au secteur des Calanques, c'est-à-dire la Sainte-Victoire et la Sainte-Baume, donc sont également comprises dans ce livre-là, quoi. Donc c'est une histoire de passion, hein, faire un livre sur la flore des Calanques. Cette passion a pris corps. On a commencé à prospecter pour savoir s'il existait des livres en français et en langue étrangère. Il n'existait absolument plus rien et l'autre n'était pas retiré. Donc on s'est attelé à ce travail, c'était un gros gros boulot, hein, quand même, hein. Vraiment un gros boulot.
Mais combien de temps vous avez mis pour faire tout ça ?
On a mis 3 ans.
3 ans, eh oui.
3 ans, 3 ans en étant très actif, 3 ans en passant des centaines d'heures sur le terrain, sans compter, je dirais, la connaissance, les préacquis de Anne Méry, qui est une ancienne technicienne du jardin alpin du Lautaret, et ma connaissance du massif, et ma connaissance relativement bonne déjà, je dirais, de la flore depuis 30 ans, quoi. Et en fait, on allait de découverte en découverte. C'est assez hallucinant de voir, c'est-à-dire que quand on dans l'idée des gens, les Calanques, c'est un grand désert au bord de l'eau, avec quelques pins qui sont balayés par le vent. En fait, non, c'est excessivement riche, quoi. Et toutes ces plantes ont un lien avec l'histoire de l'homme et de l'implantation de l'homme. Donc ce livre est également orienté sur, je dirais, sur ce côté ethnobotanique, quoi. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les Calanques ont été colonisés par les Phocéens à l'époque de l'implantation de Marseille, hein, donc il y a 2600 ans, à savoir que avant eux, il y avait des populations celto-ligures, hein, qui étaient là, hein, de toute façon, hein, les Phocéens ne sont pas les premiers à arriver, et que toutes les plantes qui sont là étaient utilisées et sont encore utilisées dans le monde de la pêche, dans l'agriculture, dans le tannage des peaux, dans la teinture, etc., etc. Et c'est assez fascinant de voir le lien qu'il peut y avoir entre une plante qui apparemment ne paye pas de mine et l'histoire de l'homme, quoi. Voilà, alors ça, c'est des aspects que moi, j'aborde dans mes stages. C'est ce qu'on appelle l'ethnobotanique, hein. Il n'y a pas uniquement la reconnaissance de la plante en elle-même, ce qui peut être à la longue très rébarbative, mais c'est aussi l'histoire de la plante. Voilà. Après, on a essayé aussi d'inclure des photos assez jolies, hein, comme la photo de couverture, parce que c'est vrai que la plante, c'est bien de la nommer, c'est bien d'expliquer d'où elle vient, c'est bien de lui donner son nom, sa famille, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier le fait de la regarder avec un regard de poète, quoi. C'est beau, tout simplement, quoi. Voilà.
Et oui, je me rappelle de sorties avec, avec des personnes très compétentes qui savaient le nom de toutes les fleurs. Je disais, oh mon Dieu, que je suis inculte. Et elle me disait, le principal, c'est quand même de les remarquer, de les admirer. Et puis, on apprend petit à petit, notamment avec un livre comme celui-ci. On peut découvrir, par exemple, les clématites flamettes.
Alors, clématite flamette, c'est une plante que l'on retrouve sur tout le territoire français. Hein. C'est une plante grimpante, elle est assez connue. On retrouve sa cousine dans les jardins aussi, ça fait des très jolies fleurs. Voilà, mais qui n'est pas propre, je dirais, au massif des Calanques. Par contre, dans ce livre-là, vous avez des espèces remarquables, c'est-à-dire des espèces très rares, voire endémiques, c'est-à-dire qu'on ne trouve qu'en Basse-Provence, comme la sabline de Provence, comme le lavater maritime, qui est une plante... lorsque j'étais gamin, moi, le lavater, on en voyait, je ne dis pas partout, mais je dirais, on en voyait assez fréquemment. Aujourd'hui, on en connaît trois. Mmh. Et j'en ai parlé donc avec des techniciens de l'ONF et du parc, et ils ne les connaissaient pas. Voilà. Donc c'est pour vous dire, alors ces plantes-là ont été braconnées hein, par les collectionneurs, tout simplement.
Alors moi, j'ai envie de lire quelques petites choses comme ça, je trouve ça c'est intéressant. Par exemple, pour revenir à la clématite flamette, vous dites que, bien sûr, il ne faut pas abuser de son contact, parce qu'elle peut être, la clématite vigne blanche peut être irritante et provoquer des dermites.
Voilà.
Et elle était d'ailleurs utilisée au Moyen-Âge en frottement sur la peau des mendiants pour apitoyer les passants. Voilà, voilà qui est intéressant.
Voilà. Alors il y a tout plein de petites anecdotes comme ça, et voilà, c'est vrai c'est assez rigolo, hein, bon, parce que c'est vrai qu'en se frottant la peau avec une clématite, et ben, il va y avoir des pustules. Bon, chacun réagit différemment, et c'est vrai que bon, ben, pour apitoyer les passants, c'était idéal, quoi.
Et puis la clématite vigne blanche, alors là aussi, c'est écrit que c'est comestible après passage à l'eau bouillante. En Italie, elles sont encore cuisinées en omelette.
Voilà.
Voilà, donc c'est toujours intéressant.
Alors, c'est des plantes qu'on retrouve sur tout le pourtour méditerranéen, au Proche-Orient également, qui sont encore utilisées pour la cuisine. Hein. Donc, il faut savoir que, bon, il y a ces dernières années, c'est vrai que les plantes culinaires sont revenues à la mode, un petit peu comme les médecines douces, les huiles essentielles, etc. Mais il faut être quand même très, 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 très prudent, quoi.
Bien sûr.
On ne va pas s'amuser à faire une salade de n'importe quoi, hein, parce que là, c'est l'hôpital direct. Donc, ces plantes-là sont souvent utilisées comme condiment. Hein, c'est beaucoup plus pour rehausser le goût qu'autre chose, quoi.
Et c'est aussi pour la composition de certains médicaments antalgiques et anti-inflammatoires.
Voilà. Voilà. Beaucoup de plantes ont des vertus antalgiques et anti-inflammatoires, ben, notamment la grande famille des labiers. Les labiers, c'est la famille des thyms, des romarins, des sarriettes, des lavandes. Toutes ces plantes-là ont généralement des vertus donc antalgiques, mais également apéritives, digestives. Mais c'est pareil, il faut quand même respecter les dosages. C'est-à-dire qu'on voit souvent des gens qui font des tisanes de thym, voire des décoctions de thym, et qui les boivent par litre. Ce n'est pas une chose à faire. Ça, ce n'est pas du tout une chose à faire.
Donc voilà un livre passionnant avec beaucoup de belles photos et où on peut donc savoir le nom latin et le nom commun.
Alors le nom latin, très souvent le public néophyte s'imagine que c'est une forme de snobisme scientifique. C'est pas le cas du tout. Il faut savoir que une plante a plusieurs noms. Hein, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que vous prenez simplement un chêne blanc ou un pin d'Alep, en fonction de l'endroit où elle se trouve, elle porte un nom local. Tout simplement. Donc, pour une plante, il peut y avoir 10, 15, 20 noms. Donc, la seule façon d'arriver à se repérer, c'est d'utiliser le latin ou le grec. C'est une espèce d'espéranto scientifique qui nous permet donc de parler le même langage. Alors, c'est un petit peu le côté, je dirais, qui fait peur dans le monde de la botanique ou de la zoologie, parce que c'est vrai que parler latin ou grec, tout de suite, c'est assez pompeux et ça nous demande un effort de mémorisation supérieur. D'autant que c'est pas usuel de parler ces langues-là. Mais moi, je peux vous garantir, hein, j'ai pas de formation scientifique à la base, mais quand on parle de plantes sur le terrain, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser les noms scientifiques. De même que le classement par famille, genre et espèce, nous permet également donc de remonter assez loin. Il faut savoir que chaque plante a une famille, etc., etc., comme pour les animaux. Hein.
D'autant plus que, enfin, par rapport aux huiles essentielles, souvent aussi les noms latins sont indispensables, puisqu'il y a plusieurs espèces,
on est obligé de passer par les latins.
Assez fines,
oui.
Qui n'ont pas les mêmes vertus, donc c'est important de le savoir aussi.
Ah, c'est primordial, donc nom, genre, espèce et sous-espèce, hein, parce que vous avez dans les huiles essentielles, alors je ne suis pas du tout spécialiste de la question, mais c'est vrai que, par exemple, sur le thym, il y a plusieurs espèces de thym. Bon, la molécule, je dirais, utilisée dans les huiles n'est pas la même, quoi. Donc rien qu'au niveau du thym, si vous prenez deux thyms différents, bon, par exemple, on va prendre le thym vulgaire qui est assez classique dans les calanques jusqu'ici avec le serpolet qui est un thym de montagne, ce n'est pas du tout la même molécule qu'on va utiliser. La sarriette qui est une cousine du thym, donc sera pas du tout, n'aura pas les mêmes vertus non plus. Donc c'est pour ça qu'il faut être très 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 prudent avec les plantes. Hein. Et c'est vrai que ces dernières années, il y a eu de la demande et étonnamment, ce livre manquait sur le parc national. En fait, ce qui a motivé la création du livre, parce qu'au début, on avait commencé par faire un petit livret pour nos stagiaires. Donc on s'était dit, on va recenser les plantes et essayer de faire un livret interne pour les stagiaires. Et puis, chemin faisant, on a commencé effectivement à engranger des centaines d'espèces et des milliers de photos. Le décret du parc est arrivé en avril 2012 et là, on s'est dit, on se jette dans l'aventure. Et on va faire le premier bouquin sur la flore des calanques. Quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, il est tout nouveau. Hein, il est sorti, je pense, il y a 2-3 mois, hein, pas plus. Donc c'est un livre qui va faire son chemin, qui arrivera jusqu'au parc national. Et je pense que ça servira d'outil de travail pour les futurs gardes. Quoi. Moi, ça me sert comme outil de travail lors des stages. Ouais, j'avais un stage le week-end dernier. Bon, on travaillait à partir du livre.
Voilà, un livre donc à se procurer de toute urgence. Il fait 300 pages quand même avec beaucoup de photos et puis bien sûr tout ce qu'on peut apprendre sur chacune de ces espèces, les flores des calanques.
Voilà.
Et il coûte 26€ et on le trouve où ?
Alors c'est un livre qui est diffusé sur toutes les centrales, toutes les librairies en ligne et également en librairie classique, quoi, hein, donc sur Amazon ou directement en l'édition. Prixmania, etc. Voilà, à savoir que via le site des Marcheurs de la Terre, vous pouvez également le commander, voilà, avec une dédicace en plus, si ça intéresse les gens.
Ben oui, c'est toujours sympa d'avoir des livres dédicacés. Et puis, il y a aussi ce qui est mentionné, ce qui est important de savoir aussi, c'est les espèces protégées en région PACA.
Voilà, alors ça, c'était le travail de Anne Méry, hein, qui a fait un gros travail de recherche. Qui a fait corriger tous ces fichiers, textes et images par les plus grands botanistes français. Donc c'est un énorme travail. Donc Anne a fait un gros boulot. Les illustrations que vous voyez en fin de livre ont été faites par une accompagnatrice du département. Donc,
les dessins,
oui. Nelly Kars, qui est accompagnatrice en montagne et qui dessine également. Et tout ce qui est textes généraux sur le patrimoine et organisation générale des sorties de terrain, c'était beaucoup plus ma partie. Voilà. Donc, c'est un travail partagé et passionnant pour en arriver à ce résultat.
Avec une table des matières, c'est la table des matières aussi.
Alors, vous
là.
Avez la table des matières avec les noms français, les noms latins. La classification, c'est fait par couleur. Hein, donc, c'est-à-dire que... Alors, c'est un livre qui s'adresse aux néophytes. Hein, c'est-à-dire qu'il peut s'adresser également aux spécialistes, mais aussi aux néophytes. Moi, c'était vraiment mon souhait majeur, c'est-à-dire de rendre accessible cette connaissance. Alors, c'est vrai que de partir tout de suite sur du Thymus vulgaris, on en revient au thym vulgaire, c'est pas évident. Alors que quand on voit qu'il y a une petite icône verte, eh ben, effectivement, on va aller sur l'onglet vert et on va tomber sur les plantes par couleur, quoi. Voilà. On a rajouté quelques algues
donc
aussi.
Donc, les couleurs, ça classe, par exemple, les oranges, ça veut dire quoi ?
Alors, orange, ce sont des fleurs oranges, jaune, des fleurs jaunes, rouge, fleurs rouges, voilà. Et vous avez également des algues qui apparaissent en tout début du livre, voilà. On a mis quelques algues aussi. Sans oublier la posidonie, qui est une plante marine, une espèce phare de Méditerranée, hein, qui est actuellement en souffrance malgré sa protection, et qui est la garante des écosystèmes méditerranéens. Donc moi, je suis très, très attaché à la posidonie, qui est sous l'eau, mais qui est une plante à fleurs, qui n'est pas une algue.
Bien, merci Bruno. On n'a pas fini avec vous, hein, mais... On va faire une petite pause musicale. Je rappelle donc le titre du livre, c'est Flore des Calanques, avec Anne Méry donc, et Bruno Lambert vous-même. Marseille, Cassis, La Ciotat, et c'est aux éditions du Fournel.
Voilà.
Et ça coûte 26€ et on peut le trouver certainement aussi. Est-ce qu'on peut le trouver c'est mieux de le commander au Marcheur de la Terre ou...
Oh, ce livre-là, vous pouvez le commander effectivement chez moi, mais ça revient même. Hein, voilà.
D'accord.
Voilà.
Allez, on fait une pause musicale avec une musique que vous nous avez amenée et vous nous parlerez peut-être pourquoi ce choix de musique. À tout de suite. Bruno Lambert, et on va parler du second livre donc, que l'on pourra, dont on va présenter, Bruno Lambert, Pèlerin de l'aube de l'autre côté du miroir, et je vais lire donc la quatrième de couverture, on appelle ça « L'homme d'aventure parcourt tout aussi bien l'espace géographique que les méandres de la psyché. Porté par la vigueur de son inspiration, il entraîne ses rêves dans une direction que redoutent les autres. » Écrit à partir de carnets de route et de souvenirs, ce petit livre est un long pèlerinage au-delà des préjugés et des frontières, des clivages et des apparences. Attaque d'ours polaires, chamanes et forêts vierges, rencontres énigmatiques de l'Everest au Cap Horn, méharés solitaires et garimpéros assoiffés de pépites, se lit ici en fil d'Ariane pour guider le lecteur dans les arcanes de notre monde. À mi-chemin entre la relation de voyage et le récit initiatique, ce recueil de nouvelles se veut un hymne à la nature sauvage, à l'aventure humaine et à la liberté. Voilà la préface de ce second livre que vous nous présentez aujourd'hui, Pèlerin de l'aube de l'autre côté du miroir.
Voilà, alors là, on n'est absolument plus dans la botanique, hein, mais c'est une autre facette de mon travail et de mes passions. Hein. En deux mots, vous avez dit la liberté, la libre expression, le voyage, l'aventure, l'équité. Moi, ce sont des valeurs qui me tiennent à cœur depuis tout petit et ce qui ont orienté mon existence en m'ayant mis très souvent en marge justement des systèmes en place. Alors c'est vrai que tout à l'heure dans la première présentation, dans ma biographie, on a parlé de l'aventure, donc 30 années d'aventure sur la planète. Et ben là, à l'inverse de mes trois autres livres qui eux étaient beaucoup plus orientés sur du journal de bord et des livres techniques sur l'expédition, donc il y avait Entre Enfer Vert et Paradis d'Émeraude, Le Tour du Monde des Marcheurs de la Terre, Sur le Chemin de Mes Rêves, celui-ci va utiliser, je dirais, des aventures vécues sous forme de nouvelles, ce sont des textes courts, pour transmettre des messages qui vont bien au-delà du rêve et de l'aventure proprement dit. C'est-à-dire que c'est un livre à deux, trois vitesses. Donc les textes ont été écrits de manière très simple, très fluide, donc pour les assimiler facilement. Mais en fait, c'est comme s'il y avait des tiroirs derrière les lignes. Donc moi, mon objectif, c'est d'arriver à, une fois de plus, transmettre des messages sur l'écologie, l'écologie qui me tient à cœur. Je parle bien de la vraie écologie, c'est-à-dire de la relation entre l'homme et son milieu, mais non pas du développement durable, tout ce qui a été quelque part récupéré, voire salement récupéré aujourd'hui. Alors je suis peut-être un petit peu cru dans mon langage, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a pas mal de dérives et on finit par en oublier l'écologie vraie. Je parle effectivement des différents peuples que j'ai rencontrés sur cette planète, que j'ai sillonné d'un bout à l'autre, hein, donc du pôle nord au pôle sud, en passant par les hautes montagnes, les jungles, que j'ai sillonné très longtemps à pied, en kayak, en bateau, sur des très très longues périodes pendant ma carrière d'explorateur, qui d'ailleurs continue, mais à un rythme un petit peu différent. Et donc il y a pas mal de témoignages. Quand on parlait des Garimpeiros, donc les Garimpeiros, ce sont des chercheurs d'or. Bon, c'est vrai que d'ici, on les montre du doigt comme étant des méchants. Maintenant, quand on est sur place, il faut savoir que ce sont des gens, comme vous et moi, qui ont besoin de manger, qui ont des familles à nourrir et qui n'ont pas vraiment le choix. Quand on parle, donc j'ai voulu que vous mettiez cette musique Touareg justement pour faire la transition avec avec le monde. Le monde de l'aventure. Une fois de plus, les récents événements diabolisent malheureusement l'islam. Moi, l'islam, que ce soit en Algérie, au Maroc, j'y ai passé pratiquement 20 ans de ma vie en tant que formateur de guide, justement comme Hervé Gourdel, en tant qu'explorateur, en tant que reporter, et de ce pays, je ne retiens que de la générosité, de l'échange et du rire, quoi. Maintenant, moi, j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut faire la part des choses, quoi. Voilà. Donc ce livre est arrivé et sorti au mois de février, 2 mois après le décalanque, tout simplement, mais on est dans une autre sphère.
Est-ce qu'on lit déjà un extrait ?
Eh bien, à la limite, si le timing nous l'autorise, effectivement, il y a peut-être moyen de lire un texte. Alors, je vous laisse lire parce que je ne suis pas vraiment un bon lecteur et ça donne le ton, quoi.
Alors, on va commencer par le sabre d'Amina, donc extrait du livre « Pèlerin de l'aube de l'autre côté du miroir » aux éditions Edilivre, et c'est par Bruno Lambert. Le sabre d'Amina. Amina, toutes ces années durant, je n'ai cessé d'être un guerrier. Le sabre que tu m'as confié, précieux présent de nos 20 ans, fut celui de mes combats, la lame tranchante de ma vie. J'étais jeune et ardent, enflammé, romantique, porté par la magie des histoires d'antan et des grandes caravanes. L'aventure s'étendait à perte de vue au-delà des horizons revêches de ce désert que j'apprenais à découvrir. Les années se sont écoulées comme le simoun sur le grand erg, dévorant un à un les vieux xars, gommant l'empreinte du dromadaire qui nous guidait vers un ailleurs que l'on croyait meilleur. Ton éclat contenu de femmes libérées illumine mon souvenir, outrepassant les lois qui défendaient l'amour et les passions complices. Tes cheveux étaient courts, colorés rouges, aînés, et ton regard ébène ne m'a jamais quitté. Tu étais vêtu d'un poncho bariolé et d'un sarwal écru. Tu vendais à l'époque des sabres et des coutelas de facture nomade, des bibelots touaregs et autres marchandises. Tu fuyais l'Algérie réprouvée des cités opalines pour errer à ta guise dans les contrées ambrées d'un grand sud éloigné. Mais quand je pense à toi, apparaît dans mes songes une déesse antique, née d'un Orient secret, une princesse rebelle, condamnant le carcan des idées et le joug des hommes, une guerrière amazone défiant les règles et la morale, la fausseté et l'arrogance. Âme sœur, j'ai pareillement vécu durant ce temps et souvent survécu, un peu partout sur cette terre que j'ai bravé d'un bout à l'autre, explorant ses endroits les plus purs et ses envers les plus barbares. J'ai appris d'elle en pénétrant ses chairs et les recoins masqués de ses arcanes. J'ai aussi partagé la douleur de mes frères et amassé l'amour de mes semblables. Et j'ai compris ce que depuis longtemps je pressentais. La lumière n'éclaire que les ténèbres et la quiétude naît de la peur. La liberté est fille de servitude et l'ailleurs est un leurre, car le plus beau voyage commence où l'on en prend conscience. Tel est le coup d'un Graal que l'on voudrait éveille, le fruit inespéré des contraintes choisies et des milliers de nuits sous les étoiles. Et si demain ta destinée devait croiser ma route, nous pourrions cheminer sereins dans l'éternel sillage qui s'offre sous nos pieds l'instant.
Alors voilà, ça donne le ton. Alors c'est vrai qu'à travers cette rencontre d'Amina, il y a pas mal de rencontres dans ce livre. Hein. Donc les gens n'ont pas été inventés, on est vraiment dans du vécu. Je me suis permis simplement de changer les prénoms. Tout simplement, Amina s'appelait réellement Amina, c'est absolument pas dangereux. Par contre, j'ai rencontré des Garim Perro, c'est des gens qui n'étaient pas toujours très très clairs, qui menaient des combats utopiques, qui étaient relativement hors la loi. Mais donc là, je les ai absolument pas cités, c'est-à-dire que les noms ont été changés, quoi. Tous ces gens-là ont tous une passion commune, c'est le refus des systèmes en place. Alors ce sont pas des rebelles pour la rébellion, ce sont des gens qui pensent, qui réfléchissent, qui ont du vécu, qui ont dû sauver leur peau. Les guerrieros que j'ai rencontrés au Suriname, en Guyane, au Brésil, étaient des gens qui ont dû tuer d'autres personnes, bah tout simplement parce qu'ils étaient en joue, quoi. Donc ils ont dû s'échapper, ils ont dû voilà. Et c'est des gens qui ont eu des croissances accélérées et qui ont atteint des niveaux de sagesse, par des voies détournées, voilà, parce que c'est vrai que cette concentration de vie fait qu'on acquiert des paliers, qu'on n'acquiert pas dans la vie standard aussi rapidement. Amina était une femme rebelle, comme vous le disiez en lisant le texte. C'était une femme qui refusait le joug des hommes, tout simplement, et il y a de quoi dans certains milieux islamiques. C'est pour ça qu'elle a fui l'Algérie du Grand Nord pour aller dans le Grand Sud. Et curieusement, moi, quand je l'ai rencontrée, j'étais un jeune guide et je fuyais également la France pour aller ailleurs, pensant que c'était mieux. Donc c'est un petit peu le message caché de ce texte-là, à savoir que la fuite ne mène à rien, sauf qu'elle nous permet de prendre conscience que ça ne sert à rien de fuir et que le plus beau voyage est dans l'instant sous nos pas. Donc la leçon est là. Et j'essaye à travers ces textes-là de faire passer pas mal de messages. Or, des fois, on bascule complètement sur de l'écologie pure et dure, sur de l'utopie, voire de la chimère, de la fable. C'est tous les textes sont transmetteurs de messages, sont vecteurs de messages.
On va faire un lien avec la chanson que vous avez choisie de Bernard Lavilliers.
Qui risque de surprendre, mais ouais. C'est choisi.
Allez, on l'écoute.
La poésie contemporaine ne chante plus, elle rampe. Elle a cependant le privilège de la distinction. Elle ne fréquente pas les mots malfamés, elle les ignore. On ne prend les mots qu'avec des gants. À menstruel, on préfère périodique. Et l'on va répétant qu'il est des termes médicaux qu'il ne faut pas sortir des laboratoires et du codex. Le snobisme scolaire qui consiste en poésie à n'employer que certains mots déterminés, à la priver de certains autres, me fait penser au prestige du rince-doigt et du baise-main. Ce n'est pas le rince-doigt qui fait les mains propres, ni le baise-main qui fait la tendresse. Ce n'est pas le mot qui fait la poésie, mais la poésie qui illustre le mot. Les écrivains qui ont recours à leurs doigts pour savoir s'ils ont leur compte de pied ne sont pas des poètes, ce sont des dactylographes. Le poète d'aujourd'hui doit appartenir à une caste, à un parti ou au tout Paris. Le poète qui ne se soumet pas est un homme mutilé. La poésie est une clameur. Elle doit être entendue comme la musique. Toute poésie destinée à n'être que lue et enfermée dans sa typographie n'est pas finie. Elle ne prend son sexe qu'avec la corde vocale, tout comme le violon prend le sien avec l'archer qui le touche. L'embrigadement est un signe des temps, de notre temps. Les hommes qui pensent en rond ont les idées courbes. Les sociétés littéraires, c'est encore la société. La pensée mise en commun est une pensée commune. Mozart est mort seul, accompagné à la fosse commune par un chien et des fantômes. Renoir avait les doigts crochus de rhumatisme. Ravel avait une tumeur qui lui suça d'un coup toute sa musique. Beethoven était sourd. Il fallut quêter pour enterrer Béla Bartok. Rudebeuf avait faim. Villon volait pour manger. Tout le monde s'en fout. L'art n'est pas un bureau d'anthropométrie. La lumière ne se fait que sur les tombes. Nous vivons une époque épique. Et nous n'avons plus rien d'épique. La musique se vend comme du savon à barbe. Pour que le désespoir même se vende, il ne reste qu'à en trouver la formule. Tout est prêt. Les capitaux, la publicité, la clientèle. Qui donc inventera le désespoir ? Avec nos avions qui dament le pion au soleil, avec nos magnétophones qui se souviennent de ces voix qui se sont tues, nous sommes au bord du vide, ficelés dans nos paquets de viande, à regarder passer les révolutions. N'oubliez jamais que ce qu'il y a d'encombrant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Les plus beaux chants sont des chants de revendication. Le ver doit faire l'amour dans la tête des populations. À l'école de la poésie, on n'apprend pas, on se bat.
Waouh.
Ça des potes. Hein.
Ça des potes. C'était un texte de Léo Ferré. Donc,
voilà, alors c'est un texte de Léo Ferré qui doit être très ancien. Hein, je ne connais pas la date de son origine, repris par Lavilliers. Et c'est vrai que ça reflète tout à fait, exprimé différemment, ce qu'on peut trouver dans le livre Pèlerin de l'Aube. Et c'est vrai que ce livre-là est un pied de nez au faux-semblant, à l'hypocrisie, au culte du paraître. À savoir que dans le monde de l'expédition, bon, certaines histoires relatées dans ce livre ont été vécues dans des voyages relativement cool. Par contre, d'autres, comme les expéditions polaires ou en Amazonie sur des très longues périodes, étaient des voyages, des expéditions très dangereuses, très difficiles. Je me suis pas spécialement étendu sur le côté technique, tout ça je l'ai fait dans d'autres livres, mais où on risquait sa vie à chaque fois. Et c'est vrai que lorsqu'on est vraiment, vraiment, vraiment en équilibre face à la mort, on ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher. Et quand ces expériences sont vécues systématiquement et revécues pendant des années, des décennies, lorsque l'on revient dans la norme, entre guillemets, il devient impossible de jouer le jeu. C'est-à-dire que soit, effectivement, on passe en société avec ce que l'on est, et c'est tout à fait possible, il faut apprendre à le faire, et de grands artistes, justement, arrivent à le faire. La preuve en est dans cette chanson. Soit, effectivement, on est mis de côté et ça se passe très très mal, quoi. Et ce livre-là est un hymne à la non-hypocrisie et à la vérité, à la sincérité. Alors c'est un livre résolument utopiste, mais je pense que l'utopie est l'une des voies de secours, je dirais, qui nous permettra de remettre la société dans l'axe.
Bruno Lambert, on va lire un autre extrait.
Oui, ben, je vous en prie.
Dans l'ombre de l'Urubu.
Alors c'est Urubu.
Urubu, pardon, dans l'ombre de Urubu, de l'Urubu. Longs doigts effilés et crochus, pattes glabres craquelées, chaperons de cuir parcheminé, bec tranchant recourbé, tu es un Urubu, un vautour noir, sinistre fossoyeur des faubourgs putrides, d'un nouveau monde vieillissant, tu es à l'affût de la mort et les hommes ne t'aiment pas. Mal aimé comme tant d'autres qui chinent la pourriture, tu es une créature déchue, miroir des âmes qui te condamnent. Maraudeur des vieux môles et des pontons branlants, ton œil inquisiteur scrute les détritus. Spectre noir, affamé, ta silhouette macabre ondoie sur la touffeur des marigots et des mangroves. Volatile funeste planant nonchalamment à l'orée des selvas, si tu n'étais pas là, les territoires amers des humains despotiques et des déshérités ne seraient qu'un gigantesque amas d'horreurs et d'immondices. Nettoyeur besogneux des trop-pleins d'anthropiques, témoin volage de somptueux bordels qu'une espèce flappie déploie impunément, si tu pouvais parler, voudrais-tu prendre notre défense devant l'immensité du grand mystère ? Les hommes, ils ont des yeux mais ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, un nez et ne sentent pas. Te bannir leur suffit. Comme le reste, et la nature dont ils sont nés, poursuit sa gouvernance sans même qu'il ne s'en rende compte.
Alors c'est un texte qui est un peu tranchant. C'est vrai que quand on parle d'humanisme, ben, il faut aussi parler du côté sombre. C'est-à-dire que comme vous le disiez en lisant tout à l'heure le sabre d'Amina, on ne voit que la lumière dans les zones sombres. C'est-à-dire que pour aller vers la lumière, pour marcher vers la lumière, c'est-à-dire le travail du pèlerin de l'aube qui marche vers la lumière, il ne faut pas ignorer les zones d'ombre. Et c'est vrai que cette planète est truffée de zones d'ombre. Voilà. L'homme depuis son origine, enfin peut-être pas quand même, mais je dirais, a tendance à se replier sur lui-même, s'isoler, à condamner, à mettre tout le monde en conflit, à ne vivre que par le dualisme, la bêtise. Et ce texte-là, donc, j'ai pris comme acteur principal l'Urubu, qui est un vautour. Alors c'est assez rigolo, je suis en train de me rendre compte que Lavilliers avait écrit une chanson sur l'Urubu aussi. Donc c'est pas anodin. Hein. Et c'est un oiseau moi qui me fascine et qui a la particularité de traîner dans les zones putrides qu'on peut trouver donc dans les jungles amazoniennes. Alors ces zones-là, ben ce sont des estuaires, c'est effectivement des pontons, l'odeur est très forte, ce sont des zones qui sont recouvertes par la marée et en fait cet animal est diabolisé comme à la limite le corbeau pouvait l'être chez nous quoi. Donc ça permet d'illustrer en fait un double rapport, le lien de l'homme à lui-même et le lien de l'homme à la nature. À savoir et à comprendre que le lien qu'entretient l'homme à la nature n'est ni plus ni moins celui qu'il entretient face à lui-même. Tant que l'homme détruira la nature, il continuera à se détruire. Et ça, il faut vraiment le comprendre.
On continue avec Pôle Position.
Pôle Position, là je pense qu'on va rentrer sur du journal de bord, donc voilà, c'est un peu plus technique, mais ça fait aussi partie de ce livre-là.
Pôle Position, 12 avril, persuadé que nous sommes le matin, je me réveille en sursaut, alors qu'il est 22 heures. Il fait clair et le soleil brille faiblement. Perturbé par le jour sans fin, mon chronomètre interne est complètement déboussolé. Tout s'entremêle dans ma tête. L'antenne radio rafistolée, les ours en vadrouille, les crevasses et les meutes de loups. Nous devrions théoriquement atteindre le pôle le 21 avril. Encore faut-il que nous puissions marcher 23 km journaliers et que nous restions pas trop longtemps immobilisés sous la tente pour cause de tempête ou de jour blanc. Qu'est-ce qu'on appelle jour blanc ?
Le jour blanc, c'est quand en fait le nuage, en fait c'est un brouillard très très dense qui empêche toute distinction des distances. On ne sait pas où se trouve le haut du bas, les reliefs sont complètement atténués, en fait on n'y voit absolument plus rien.
Cela fait maintenant 2 semaines que nous avons une météo épouvantable. La banquise est complètement disloquée, obstruée d'énormes crêtes de compression, entaillées de crevasses souvent dissimulées sous des ponts de neige. Ces conditions comblent notre ordinaire. Vu de l'extérieur, cette expédition, comme la plupart des grands voyages aventureux, peut apparaître comme un challenge égocentrique, une course à l'excès, une fuite en avant. Ce n'est pas complètement faux. Cependant, dans de telles circonstances, ce que l'on nomme communément le lâcher-prise ou renoncement devient un art de vivre aussi paradoxal que cela puisse paraître. Dans ce type de défi, la performance ne dépend pas seulement du caractère combatif du challenger, mais plutôt de sa disposition à se soustraire de toute forme d'ancrage et de manichéisme, toujours gourmand en énergie, ce qui l'oblige généralement à briser la coquille de son ego afin de ne pas surenchérir son infortune d'une charge de vaine résistance, un mode d'emploi facile à lire mais toujours aisé à mettre en œuvre.
Voilà, alors là j'aborde deux grandes notions, enfin du moins une grande notion qui est, je dirais, le culte de l'apparence, on a appelé ça l'égocentrisme. On peut l'aborder par la voie psychanalytique ou par la voie du spirituel. Ce sont deux champs, je dirais, qui avancent, je dirais, d'une manière mitoyenne. L'un ne s'oppose pas à l'autre. Et c'est vrai que dans le monde de l'aventure, on est très souvent... Alors moi, maintenant, c'est plus vraiment le cas, mais je m'en souviens quand j'avais entre 20 et 35 ans, lorsqu'il fallait, exploiter commercialement le retour des expéditions à travers les films, les radios, les ci et les ça, les médias nous obligeaient à jouer un rôle et à la limite, c'était assez jubilatoire d'avoir cette petite étincelle de gloriole lorsqu'on était médiatisé. Donc ça, il ne faut pas le nier, c'est une réalité, on passe tous par là. Mais c'est vrai qu'avec le recul, on se rend compte que c'est un jeu qu'on est obligé de jouer et en fait, ce jeu-là va nous pourrir l'existence. Donc à un moment donné, il faut rétablir l'équilibre quand on commence à le voir. Et ça, c'est le lot commun de toutes les personnes publiques. Voire à la limite c'est ce qui peut se passer également au sein d'une entreprise ou ce qui se passe en société généralement, voire même dans un couple si on pousse un petit peu plus loin, jouer le jeu, le culte de l'apparence. Le problème c'est que tant qu'on joue le jeu, on se fausse soi-même et on se ment à soi-même, on se falsifie et c'est cette falsification qui à terme va fabriquer des gens malades. Notre société est malade. Donc ce texte-là fait allusion à tout ça. Alors après, je parle du lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est un terme qui revient un petit peu dans le monde actuel. Moi qui me fascine parce que pendant des années je me suis entraîné comme un forçat, mais vraiment un forçat, des entraînements genre 50-70 kilos sur le dos avec des dénivelés, de l'eau glacée, etc., etc. J'ai battu pas mal de records du monde, dont celui au pôle, et c'est vrai qu'avec le recul je me suis aperçu que ces records n'ont pas été battus uniquement grâce à l'entraînement physique, mais tout simplement par l'abandon au moment où on sentait qu'on ne pouvait plus y arriver. Et ça, sur le coup, je le pressentais à l'époque. Aujourd'hui, je l'ai bien compris. C'est-à-dire qu'on peut considérer que 95% de l'expédition, de la réussite, de l'avancement de l'expédition, c'est un entraînement, c'est une discipline, c'est une rigueur, c'est des années de préparation. Et on arrive très proche de l'objectif théorique. Et là, on sent qu'on va flancher. Et là, ça commence à être assez, ça devient assez jubilatoire. C'est très, très, très délicat. Parce qu'en fait, de deux choses l'une, soit effectivement, on abandonne ou on fait marche arrière, soit on passe sur une autre sphère d'abandon et on se rend compte qu'on fait marche avant. Et en fait, c'est en abandonnant, je dirais, je parle de manichéisme, hein, donc toute forme de dualité, qu'on réquisitionne l'énergie, je dirais, qui est usée dans le domaine de la pensée. Et cette réquisition-là, elle est réelle et elle part dans nos muscles. Donc, et dans le monde de l'expédition, eh ben, on s'en rend bien compte. C'est-à-dire qu'en fait, on va se mettre sur le mode nos pensées, hein, si on veut schématiser la chose, et on va faire la dernière longueur. La dernière longueur, ça peut durer 3 semaines, attention, hein. Mais en fait, dans un système de fonctionnement qui n'est absolument plus rationnel, mais qui est limite folie douce. Hein, et on arrive à terme. Bon, alors ça s'appelle le lâcher-prise, tout simplement. Alors, si j'en parle très souvent dans ce livre-là, dans des situations très extrêmes, c'est pour montrer, donc expérience à l'appui, qu'au quotidien, on peut arriver à la même chose. C'est-à-dire que si vous êtes dans une file d'attente harassante, etc., etc., ça ne sert à rien de lutter en se disant tout simplement « je vais pas y arriver, je vais être en retard, je vais s'y faire », ça sert à rien. Il suffit de dire « je fais de mon mieux et je m'abandonne à la file d'attente ». Et le moment passé est un moment agréable, tout simplement, ou passable. Voilà. Mais on n'est plus dans la pensée, je dirais, destructrice. Alors c'est vrai que j'ai fait beaucoup allusion à tout ça, donc dans ce livre-là.
Est-ce que je lis un dernier extrait avant de venir au stage ?
Ben oui, 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 si vous avez le temps, il n'y a pas de souci.
Donc les extraits que vous avez choisis, la balise zen.
Ah ben oui.
Puerto Williams, extrême sud de la Terre de Feu, dans l'entrepont d'un vieux rafio, reconverti en pub.
En pub.
En pub, bien sûr. Je suis encore dans le monde moderne. Reconverti en pub sur la bordure australe du canal de Beagle.
Beagle, oui.
Le pub des Caporniers, bien sûr. Dans ce genre d'endroit, tout le monde a une histoire à raconter. Au mieux la sienne, sinon celle des autres, imparfaitement recomposée, avec des ingrédients fardés qui embellissent ou ternissent le ton du narrateur. Il est des lieux comme ça sur Terre où le voyageur, d'où qu'il vienne, vide la cale de ses archives pour se remettre à flot, quitte à appareiller sur un navire imaginaire vers un océan de chimères, un bistrot de marin ou des vagues de pisco déferlent sur les comptoirs briqués comme le pont d'un schooner.
Scooter, oui.
D'un schooner. Un rendez-vous houleux où des flous éthyliques dévoilent l'âme tourmentée des matelots en dérive, un horizon nimbé de nicotine que les quêteurs de rêves pénètrent à l'aveuglette. Les capiteux souvenirs de baleines vagabondes et d'icebergs égarés, de tempêtes barbares et d'espars rompus s'accordent à l'unisson aux éclats cristallins des pintes éloquentes et chopines d'écume. Il existe au Chili un vin nommé sans vin. Et dans ce vin, peut-être, les audacieux routiers des ondes glauques ne pourraient débusquer leur fable utopique. Un vieux marin allé, impétueux et discoureur comme les flots matinés du Cap Horn, nous a conté ce soir 1000 histoires de mer pendant que le breuvage nous conduisait au naufrage. Surgit alors le capitaine, le torchon dans une main et le plateau dans l'autre, fermement décidé à nous débarquer dès la prochaine escale.
Voilà, alors là on est vraiment dans l'aventure maritime, hein, on est très proche du Cap Horn. Puerto William, hein. Puerto William, c'est une petite communauté qui est au sud d'Ushuaia. On parle toujours d'Ushuaia comme étant la ville la plus australe du monde, c'est pas vrai. Il y en a encore une, encore un petit peu plus loin. Et c'est le point de rendez-vous de tous les marins caporniers. Alors, ce sont quand même des sacrées personnalités. Et là, c'est un grand voyage dans le temps parce qu'effectivement, on a l'impression de se retrouver, je dirais, 150 ans en arrière, en pleine époque de la grande exploration. À savoir que le terrain s'y prête royalement parce que ce soit par la mer ou par la terre, parce que là, cette histoire-là, est tirée d'une traversée qu'on a fait de la Terre de Feu avec un ami il y a quelques années. Une traversée complètement sauvage sur des zones qui sont non cartographiées, donc des zones blanches. Alors là, je me suis amusé, je dirais, à utiliser, à faire des analogies avec le monde maritime. Pour la petite histoire, effectivement, on était parti dans une espèce de beuverie, enfin j'exagère un petit peu, locale avec des marins, avec un vin nommé 120. Donc le jeu de mots est réel, le vin s'appelait 120, quoi. Et c'est vrai que ça nous a permis de toucher du doigt, je dirais, un univers où tous les gens sont pleins de rêves et d'utopie. Il faut savoir que dans les recoins de la planète, les bouts du monde, on trouve effectivement des groupes sociaux qui sont fascinants. Que ce soit dans le nord, que ce soit dans les vallées isolées, etc. Des gens qui ont fui, des gens qui ont eu des gros problèmes personnels de tout ordre, qui un jour ont pris la mer sans pour autant connaître le bateau et qui se sont fait effectivement une vie de marin. Donc la personne dont je parle avait dû faire 2-3 tours du monde en solitaire, dont un en famille, avant de devenir skipper professionnel, quoi. Et c'est assez fascinant parce qu'en fait c'est un concentré d'humanité. Alors, les gens sont pas toujours faciles à côtoyer, tout dépend de l'heure de la journée. Le midi, l'après-midi, ça va. Le soir après minuit, ça devient un petit peu dangereux. Mais je veux dire, c'est assez fascinant parce qu'en fait, de ces gens-là émane une force de vie redoutable, un refus des systèmes en place et de l'inéquité qui est quand même très marqué et qui mettent en pratique par une vie, donc, qu'ils assument en marginal et qu'ils assument tout court, quoi. Et c'est vrai que, voilà. Alors, j'ai essayé à travers ce livre de vous faire voyager un petit peu partout sur la planète. Mmh. On va sur toutes les extrémités du globe. C'est volontaire.
Voilà, donc un très joli livre, carnet de voyage, qui s'appelle Pèlerin de l'aube, de l'autre côté du miroir, aux éditions Edit Livre. Et c'est bien sûr vous-même qui l'avez écrit, Bruno Lambert, l'aventurier, auteur, guide. On va venir au stage, donc, que vous proposez, oui. Puisque vous avez écrit. Celui-ci est le deuxième livre que l'on présente aujourd'hui. On a présenté avant le Flore de Calanque, aux éditions du Fournel. Et bien sûr, vous allez faire des stages. Il nous reste quelques petites minutes pour oui. en parler. Des stages de botanique aussi.
Alors, faudra m'arrêter. Des randonnées. Voilà, donc stage et randonnée en PACA. Donc, je vais un petit peu accélérer la cadence. C'est vrai que moi, je travaille traditionnellement dans les Alpes, au Pays d'Inois. Donc là, on est sur Digne. Je travaille également dans le Mercantour, dans la baie de Lubaye, avec des randonnées dites classiques, randonnées sportives, classiques, découvertes du milieu. Ensuite, des randonnées thématiques qui sont apparentées à des stages, donc découvertes du patrimoine naturel et culturel. Et également dans les Calanques et également dans le Var, sur l'île des Ambiers, où là, ce sont des stages qui sont plus orientés sur la botanique et la découverte du milieu naturel. Donc j'organise également pas mal de stages dans le parc national des Calanques, alors découverte du patrimoine au sens large, pas exclusivement flore, et randonnée. Voilà. Ça, les stages ont débuté il n'y a pas très longtemps dans les Calanques. La saison des Calanques et la saison, je dirais, des Ambiers, c'est le mois de mars, avril, mai, voilà, et puis ça va reprendre à l'automne. Le cœur de l'été étant réservé aux randonnées, donc sportives et moins sportives, sur les Alpes de Haute-Provence et le 05. Voilà.
Voilà, alors il y a de très beaux circuits qu'on connaît un peu, les gorges de Trévence, l'Estro sauvage.
Voilà, alors il faut surtout pas, je vous coupe Odile, oui. Mais il faut surtout pas s'affoler parce que très longtemps on m'a mis l'étiquette de l'aventurier de l'extrême. Oui. Il n'empêche que moi je prends plaisir à parcourir la forêt du Bousquet et à observer les arbres, on est bien d'accord. C'est-à-dire voilà. Qu'avec des enfants, on peut partir pendant 2 heures, 3 heures à s'arrêter sur toutes les plantes, l'un n'empêche pas l'autre. Donc les randonnées proposées ne sont absolument pas hors de portée des gens, hein, loin de là.
Alors, si on vient à la première, est-ce que c'est dans l'ordre
Par rapport
aux dates, non, pas forcément.
Non, pas nécessairement. Il faut savoir que sur la brochure que vous avez en main, donc c'est le Pays d'Inois, il va y avoir l'ichthyosaure de Chanol. La forêt du Bousquet, c'est une flânerie naturaliste. Les gorges de Trévence, avec une découverte mixte sportive et naturaliste. Dans les parties, dans les randonnées beaucoup plus classiques, il va y avoir le cheval blanc, la montagne du carton, etc., etc. Donc connu des Dinois, mais qui nécessite aussi la présence d'un accompagnateur, parce que nos montagnes, aussi modestes soient-elles, sont quand même très raides et très engagées. Attention, hein. Mmh. Et puis après, dans les parties plus sportives, donc c'est la traversée de l'Estro, le tour de l'Estro. Alors là, on rentre un peu sur du raid itinérant, le sac est un petit peu plus lourd. On est plus sur de la randonnée sportive. Ce qui n'empêche pas de la découverte du milieu, mais généralement, on peut pas vraiment arriver à combler les deux correctement, sans créer un déséquilibre. Voilà. Alors là, vous n'avez pas les calanques hein, sur la brochure.
Donc il y a aussi les calanques, et alors pour tous les renseignements sur les stages dans les calanques.
Tous les renseignements, vous le trouvez sur les deux sites des Marcheurs de la Terre, donc www.lesmarcheursdelaterre.fr, c'est le site exploration conférence, parce que je propose également des conférences et des formations sur le grand froid, les techniques de survie, et après les randonnées, c'est sur www.randolesmarcheursdelaterre.fr. De toute façon, les deux sites sont étroitement liés, et on les retrouve toutes là-dessus, voilà.
Et des projets en plus de tous ces...
Alors, il y a beaucoup de projets. Il y a des projets d'expédition, de découverte, donc des projets locaux. Alors, je ne vais pas trop m'étendre parce que c'est toujours un petit peu... On est toujours un petit peu espionné, j'ai envie de dire. Il va y avoir un projet maritime et sous-marin en Méditerranée à vocation pédagogique qui va mettre en lien, comme on le faisait à l'époque du pôle et de l'Amazonie, donc tous les établissements scolaires PACA et français pour sensibiliser donc les enfants sur la protection des milieux marins. Donc cette expédition accrochera le public avec une approche sportive du milieu. Voilà. Donc nage, kayak, etc., etc., pour essayer de stimuler les gens. C'est ce qu'on a toujours fait dans les Marcheurs de la Terre. Hein. C'est-à-dire que pendant des années, on a accroché les gens avec un record au pôle Nord, ou plusieurs records, et après, on a parlé du réchauffement climatique des banquises. On a accroché le public et les médias avec des traversées de l'Amazonie pour parler de la déforestation. Donc c'est toujours dans cette même logique, sauf que là, ce ne sera pas au bout du monde. Hein. C'est à 150 km à vol d'oiseau. Ce sera sur le littoral PACA. Voilà. Et toujours destiné aux enfants, parce que moi, ma priorité, c'est quand même de transmettre des messages. Hein, à savoir que la première tranche des Marcheurs de la Terre, on a visité quelques 110 000 enfants. C'est quand même énorme. Ça, c'est pour les projets d'expédition reportage. Après, il y a d'autres projets de livres en cours sur l'aventure et également dans un domaine un peu plus spirituel, voilà, sur tout ce qui touche à l'élargissement et l'élévation, le fleurissement des consciences individuelles et collectives. Donc, ce qui est déjà abordé sommairement dans Pèlerins de l'Aube.
Bruno Lambert, merci beaucoup d'être venu sur notre antenne, présenter donc bien sûr les stages, les randonnées, les stages botaniques, et puis deux livres, Flore de Calanque et Pèlerins de l'Aube de l'autre côté du miroir. Merci beaucoup pour ce partage.
Odile.
Et puis on sait que les personnes peuvent vous retrouver, l'émission sera en ligne très bientôt sur le site de Fréquence Mistral, dans Quartier Libre. Une très bonne journée. On écoute Alan Stivell que vous avez choisi.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.